Je vais faire record. OK, maintenant, c'est allumé. Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît. Intéressant, lorsque le Seigneur nous dirige, et savez-vous quoi, j'ai pris du temps pour prier au sujet de ce que le Seigneur voulait que je prêche aujourd'hui. Et dans un certain sens, le thème d'un certain sens, on peut parler dans les deux messages, évidemment différents textes, différentes personnes dont la Bible nous parle, mais le thème était un petit peu pareil. Et lorsque j'ai prié là-dessus, le Seigneur m'a guidé vers, ici dans Apocalypse, vers la lettre à l'église de Smyrne. Donc moi je vous invite de suivre avec moi, je vais vous demander en fait votre implication dans Apocalypse chapitre 2, les versets 8 à 11. Moi je vais lire le verset 8 et je vous demande peut-être chacun un verset, il y a juste 9, 10 et 11, mais trois personnes, si vous voulez bien lire versets 9, 10 et 11, on va lire ce texte ensemble, la lettre à l'église de Smyrne. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2 et le verset 8, « Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie.
Amen. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoi que tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Merci. On va prier. Merci, Seigneur, de ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu puisses nous guider cet après-midi, nous enseigner, Seigneur, et également nous fortifier par ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Amen.
Amen. Juste pour commencer le message, je voudrais vous donner un petit peu de contexte au sujet de la ville de Smyrne, comme la Bible nous en parle ici, la ville de Smyrne. Et combien d'entre vous, juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà pris ou fait, je ne sais pas comment la bonne façon de dire, mais une croisière? Est-ce que quelqu'un a déjà fait une croisière comme de bateau? Non? OK. Vous aussi? OK, petite croisière. OK, moi et ma famille, on n'a jamais fait de croisière. Mais peut-être une chose, peut-être la plus proche à ça, on a fait le voyage à partir de... Nouvelle-Écosse, Sydney, North Sydney, Nouvelle-Écosse, jusqu'à Terre-Neuve, Port-au-Basque, Terre-Neuve, à bord de le traversier, et on a loué une chambre avec des lits, est-ce qu'on dit les lits superposés, les bunk beds, les lits superposés, et ce traversier-là, ça prend à peu près de 6 heures de traversier pour traverser l'eau jusqu'à l'île à Terre-Neuve. Alors, c'était le plus proche, c'était vraiment intéressant d'être sur je crois que c'était comme le 8e étage, à bord le traversier avec notre propre chambre. Et la dernière fois qu'on a fait, c'était en 2018, on est monté jusqu'au nord de Terre-Neuve, on a passé à travers Gros Morne, le parc national, c'était intéressant. Et aussi, on a cogné toutes les portes dans le coin de Blanc-Sablon et on a également fait un concert pour l'Évangile, pour présenter l'Évangile. Mais je peux vous dire, à bord le traversier, on a fait la nuit pour économiser, pour ne pas devoir passer la nuit dans un motel sur la terre, vu qu'on devait, on a dû déjà prendre le traversier. Donc, on a fait la nuit pour se coucher la nuit. Mais on a trouvé ça intéressant parce que lorsqu'on arrive au port, je vous invite de imaginer un petit peu, arriver au port parce que je peux vous dire qu'en arrivant au port, je me rappelle lorsqu'on arrivait à Port-au-Basque le matin, on avait couché la nuit, on a bien dormi la nuit. En fait, on a pu embarquer plus tôt que le départ, beaucoup plus tôt que le départ. Alors, on s'est bien couché même avant de partir. Et une fois qu'on était comme une quinzaine de minutes de loin du port, ou peut-être une vingtaine de minutes, on avait une annonce pour dire « Bon matin à tout le monde ». Évidemment, c'était en anglais en premier, ensuite en français, mais « Bon matin à tout le monde, on vous demande de bien vous préparer pour descendre aux étages des voitures pour le débarquement ». Et je me rappelle, on s'est réveillé, on a regardé à travers la fenêtre, on a dit « Oh oui, oui, on s'approche à Terre-Neuve, on est presque rendu ». Et je vous invite de venir avec moi, comme dans votre imagination un petit peu, dans une petite croisière. Parce que je voudrais vous donner des renseignements sur la ville de Smyrne pour mieux comprendre la lettre à l'église de Smyrne. Et vous pouvez peut-être bien imaginer, bien considérer le fait que la ville de Smyrne, mais en fait, juste pour mettre du contexte dans le mot, la ville de Smyrne, ça vient du mot myrrhe. Évidemment, ce n'est pas très compliqué. Le mot myrrhe, la myrrhe, c'était un des cadeaux que les mages ont présenté à Jésus lorsqu'il était bébé. Lorsque les mages sont arrivés de l'Orient à la maison, à Bethléem, aux petits enfants, lorsque à la maison où restaient Joseph, Marie et Jésus. Lorsque la myrrhe est écrasée, ça devient un beau parfum. Une fragrance qui était utilisée le plus souvent lorsqu'on embaumait des corps après la mort. La lettre à l'église à Smyrne, ça parle vraiment concernant la mort et la persécution, alors que l'église et les chrétiens souffraient beaucoup de persécution aux mains des leaders gouvernementaux à l'époque. Donc, on est toujours à bord le traversier. Est-ce que vous êtes toujours à bord le traversier? Est-ce que vous êtes bien réveillé? On vient de traverser la mer à, je crois que la bonne façon de dire en français, à Aegean. Est-ce que ça se dit bien? La mer à Aegean Sea. Je m'excuse. OK, j'ai essayé de transformer le mot anglais en français. La mer Aegean. On vient de traverser la mer Aegean pour arriver dans la port de Smyrne. La ville de Smyrne, juste pour vous donner du contexte, alors que vous ouvrez les rideaux de votre fenêtre à bord le bateau, vous regardez à travers la ville, à l'extérieur. La ville de Smyrne était la ville la troisième plus importante en Asie à l'époque, ce qui est présentement évidemment la Turquie. La ville de Smyrne avait un port, et peut-être une chose que peut-être vous auriez constaté à bord le bateau, c'est que différent qu'un bateau qui fait la Terre-Neuve, c'est que l'eau est très tranquille. Parce que la ville de Smyrne avait un port très connu sur la mer Égée. Ce port-là prospérait beaucoup, partiellement à cause de son emplacement qui le rendait un port très, très protégé, en fait très calme aussi. Ce qui le rendait d'habitude toujours accessible, un port de secours dans les tempêtes sur la mer. La ville de Smyrne connaissait malheureusement des tremblements de terre. Donc, tandis que le port était très protégé, la mer était comme protégée dans le coin, il devait faire face à des épreuves de tremblement de terre. Et à certaines reprises, la ville de Smyrne a subi de la ruine suite à un tremblement de terre, mais ses résidents ont toujours reconstruit la ville. Alors, juste pour vous donner du contexte à ce sujet également, aujourd'hui, la ville de Smyrne est connue sous le nom Izmir. Et aujourd'hui, la ville de Izmir a présentement à peu près de 4,3 millions d'habitants. Mais lorsque vous rendez dans le bateau à l'île de Smyrne, dans l'époque où la lettre était écrite à l'église de Smyrne, probablement vous constaterez évidemment que où se trouve le port, évidemment, c'est presque au niveau de la mer. C'est pas quelque chose de très comme, oh wow, c'est assez commun. Lorsqu'on arrive au port, c'est presque au niveau de la mer. Et probablement, si vous regardez dès le port, lorsqu'on s'attache au port, si vous regardez presque directement vers le sud, 19 kilomètres, je m'excuse, j'ai presque dit kilomètres, 19 kilomètres plus dans le, vers le sud, ça monte jusqu'à 420 pieds au-dessus du niveau de la terre. Au niveau de la mer, je m'excuse, au niveau de la mer. Ça monte de niveau de la mer jusqu'à 420 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et ça, c'est là où présentement, en 2021, se trouve l'aéroport d'Izmir. Et savez-vous quoi, si on regarde lorsqu'on on commence peut-être à débarquer du port et on regarde vers le, comme la ville est dans l'élévation, alors que ça monte, on pourrait regarder vers le, comme peut-être le point plus haut de nos jours et on pourrait voir que 20 de kilomètres vers le sud, parce que ça va vraiment, la ville c'est comme long et ça se dirige vers le sud, l'aéroport se trouve comme entre des vallées. À 420 pieds au-dessus du niveau de la terre. De la mer, désolé. C'est sous la terre. C'est un aéroport de terre. Ce n'est pas un aéroport de mer. C'est pas, c'est sous de la terre. Mais aussi, si on était évidemment ici sur une croisière, en arrivant sur, à ce port, dans l'époque où la lettre était écrite à l'église de Smyrne. On pourrait suivre comme la topographie de la terre pour voir comment ça monte comme vers cette petite vallée 420 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et on aurait une bonne, une belle vue des choses comme importantes à cette époque, à la majorité du monde à cette époque. Et une chose dont le skyline, est-ce qu'on peut dire le skyline d'une ville? Est-ce que ça se dit bien le skyline des... Le quoi? L'horizon, merci. Une chose qu'on pourrait voir sur l'horizon de la ville de Smyrne, c'était probablement, on pourrait voir bien le toit du temple de faux dieu Zeus, faux dieu dans la mythologie grecque. Parce que ici à Smyrne se situait le temple au faux dieu dans la mythologie grecque, le faux dieu Zeus. Ceux qui adoraient Zeus l'adoraient comme étant le dieu au-dessus de tout autre. Il y avait même des symboles attribués à lui comme le sceptre d'autorité, le tonnerre des éclairs, l'aigle. Il était adoré comme celui qui avait le pouvoir sur le ciel, donc la météo, la pluie. Il était également considéré comme celui qui donnait la sagesse, la victoire dans les batailles et qui possédait l'autorité suprême. À l'époque, les chrétiens ont été considérés comme un empêchement au succès de l'idolâtrie, je m'excuse, dans l'époque, parce que les chrétiens ne soutenaient pas l'économie de l'idolâtrie. Ils n'achetaient pas des idoles, des trucs de l'idolâtrie. Ils n'achetaient pas les choses vendues pour bonheur par ceux qui suivaient cette fausse religion. Aussi avec l'idolâtrie, dans l'époque, il y avait également beaucoup de débauches sensuelles et les chrétiens prenaient une position ferme contre ces pratiques, ce que les Romains n'aimaient pas parce que ça piquait leur conscience coupable, ça affectait leur conscience coupable. Ces derniers voulaient vraiment soulager leur conscience ayant une implication de tous. On peut dire que les chrétiens remplissaient bien leur rôle comme le sel de la terre. Mais cela leur a coûté très cher. Parce que si on faisait une promenade, si on débarquait du bateau et on voyait comme des bâtiments majeurs, si on peut dire, dans la ville de Smyrne, on aurait constaté qu'il y avait non seulement une adoration à Zeus, mais également ils adoraient l'empereur romain César. Et une adoration de César, c'était obligé sur les citoyens pour pouvoir garder leurs droits en tant que citoyens de Rome. Dans l'adoration de César, les gens qui voulaient garder leurs privilèges, en tant que citoyens, devaient prendre une pincée de sable dans les mains pour ensuite prononcer certains mots, César est suprême. Ça, en faisant cela, ils pouvaient recevoir un certificat pour vérifier qu'ils avaient fait cet acte d'adoration publiquement. Donc, ils pouvaient garder leurs droits de citoyens, leurs privilèges de citoyens. Cette adoration de César, c'est devenu vraiment un culte parce que cela est devenu un acte politique de la loyauté à l'Empire romain. Pour les croyants, c'était vraiment une grande épreuve. Un test de leur foi, parce que si les croyants ne le faisaient pas, ils pourraient perdre leur maison, leur travail, leur liberté de se déplacer. Les chrétiens fidèles sont devenus des ennemis de l'État, considérés comme un danger à l'Empire. Donc la seule façon dont l'empereur pouvait régler ceci, c'était en mettant à mort ceux qui ne se penchaient pas devant son décret. Évidemment, faisant ainsi pour le croyant voulait dire renier à Jésus-Christ en tant que le Seigneur. Dans le jour, les croyants à Smyrne qui participaient dans cet acte d'adoration de César, disait peut-être aux autres qui prenaient une position ferme contre cela, ce n'est pas que quelques mots prononcés par la bouche. Dieu sait bien qu'on ne croit vraiment à ça. Et si on ne fait pas ça, on va perdre notre maison, notre travail, notre liberté. On peut toujours témoigner à nos collègues de travail si on garde notre travail. Mais évidemment, comme avec Shadrach, Meshach et Abednego ce matin, cet acte d'adoration de César s'agissait du péché. S'agissait d'avoir d'autres dieux que le Seigneur, d'autres maîtres que notre maître Jésus-Christ. Souvent, Satan emploie les tactiques qui rendent le péché, si on peut dire, sembler nécessaire. Sembler qu'on est obligé, même parfois sembler petit et insignifiant. Ça me fait penser ce que Jésus-Christ nous dit dans la parole. Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Pour les chrétiens qui refusaient à l'époque de se pencher devant César, un autre maître, un autre seigneur, sauf pour le Seigneur, ils ont dû payer cher. Plusieurs ont été nourris au lion, souvent dans un genre de spectacle pour inciter la peur dans ceux qui oseraient refuser de se pencher devant César. Plusieurs ont été brûlés au poteau. Plusieurs ont été tués par l'épée et par la décapitation. Jean, qui a reçu ce livre du Seigneur Jésus-Christ, selon les écrits de Tertullian, l'historien, il disait que Jean a été à un moment donné brûlé vif en l'huile, mais miraculeusement survécu pour ensuite être banni en exil à Patmos. C'était Tertullian qui avait prononcer le sang des martyrs et la semence de l'Église. En anglais, the blood of the martyrs is the seed of the church. On peut se demander comment ça pourrait être le cas, mais l'impact et le témoignage est grand du chrétien qui est dévoué au Seigneur, même face à la persécution, qui ne regarde pas sa vie comme précieuse. même face aux conséquences, pour rester fidèle au Seigneur, comme on a vu également ce matin. Et je crois que pour l'enfant de Dieu qui même fait face aux épreuves, aux grandes épreuves et aux persécutions, il faut avoir un haut regard pour le nom de notre Seigneur et de Dieu, et ne pas considérer notre vie comme précieuse. Ceci est vraiment le témoignage de ceux qui n'ont pas seulement trouvé quelque chose pour laquelle vivre, mais également, ils étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Et cela a apporté un grand impact sur ceux qui sont témoins de ce dévouement. Et la raison de tout cela, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Un des chrétiens à l'époque qui vivait à Smyrne, c'était le pasteur de Smyrne à l'époque, Polycarpe. Est-ce que vous avez déjà entendu de Polycarpe? Il était un étudiant sous l'apôtre Jean. Et en fait, Polycarpe était le pasteur à l'église de Smyrne. C'était à l'âge de 86 ans, dans l'année 155 après Jésus-Christ, que Polycarpe se tenait devant le proconsul en lui témoignant du Seigneur Jésus-Christ. On lui a même menacé en disant qu'il pouvait se faire brûler au poteau. Et Polycarpe disait à ses tortureurs, « J'ai servi le Seigneur pendant 86 ans et il ne m'a jamais abandonné. Je ne vais pas blasphémer son nom. » Il disait ensuite, « Vous me menacez par le feu qui brûle pendant une heure et ensuite prend sa fin, mais vous ne comprenez pas du feu de jugement à venir pour l'éternité, pour votre propre rejet de Jésus. » Et on reçut une dernière occasion de renier à Jésus-Christ. Polycarpe a par contre courageusement prié alors qu'il se faisait brûler au poteau. Il prie, « Seigneur Dieu, Père de notre Sauveur béni, je te remercie que je me suis trouvé digne de recevoir la couronne de martyr et que j'ai l'occasion de mourir pour toi et pour ta cause. » Durant les 200 années de persécution, entre l'année 100 et 300 après Jésus, le chrétien et l'étudiant de l'apôtre Paul Ignatius s'est fait nourrir à des bêtes sauvages dans l'arène devant une foule à Rome. Justin Martyr a subi la décapitation dans l'année 167 après Jésus pour suivre Jésus. Ses derniers mots ont été « Je suis un chrétien » et ont été libérés par Jésus-Christ. Et par la grâce de Jésus, je participe à la même espérance. D'autres noms qui peut-être vous avez entendus qui étaient martyrs dans cette période et autour de cette période. Blandina, une jeune dame esclave dans le sud de la France. Perpetua, une femme dans le nord de l'Afrique avec sa servante Félicitas dans l'année 203 après Jésus. Ophrygia, dans la région de ce qui est présentement la ville de Ankara en Turquie. Une ville au complet de chrétiens a été brûlée avec tous les résidents. Et ne même pas un seul homme ou femme ou enfant avait renié Jésus-Christ, ni s'est abandonné aux ennemis. D'autres croyants ont été liés à de grosses roches et jetés dans la mer Noire, mais ils sont restés fidèles à celui qui avait prononcé les mots de notre texte, quand la Bible nous dit dans notre texte, je m'excuse, je vais juste trouver les mots. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Pourquoi est-ce que je vous partage ces détails? Moi, je voudrais que vous puissiez premièrement avoir une bonne compréhension de l'époque durant laquelle se trouvait l'église à Smyrne. C'est intéressant, un auteur a dit à un moment donné, les croyants de Smyrne auraient pu faire des compromis avec des juifs, avec des païens, pour se sauver la vie et leur terrain. Mais certaines choses sont plus précieuses même que la vie elle-même. des mêmes croyants comme se trouvaient à Smyrne n'ont pas besoin de réveil, car ils ont l'essentiel du réveil, la loyauté, la fidélité à Christ, n'importe quel prix. Dans cette lettre à l'église de Smyrne, la première chose on voit, c'est la salutation et une félicitation à l'église de Smyrne. Jésus commence cette lettre dans le verset 8 de notre texte à l'ange ou au messager, en fait le pasteur de l'église à Smyrne. Et Jésus-Christ ici dans notre texte, il se qualifie en étant Jéhovah, le premier, le dernier. Sans doute le fait que Jésus est mort, la Bible nous parle ici, Jésus parle du fait qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Le fait que Jésus est mort, mais a repris la vie, devait être un encouragement pour les chrétiens qui faisaient face à la mort par la persécution à Smyrne. Parce que même face à la mort, les chrétiens de Smyrne étaient prêts à tenir fort dans le Seigneur, parce qu'ils ne tenaient pas fortement aux choses du monde, mais toute leur espérance se trouvait en Jésus-Christ. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà soit vu ou peut-être même participé à aider quelqu'un qui avait des problèmes dans l'eau, qui se faillait noyé dans l'eau? Est-ce que, ok, Eric, savez-vous quoi? C'est intéressant, ce que je lisais, j'ai jamais dû aider avec quelque chose comme ça, mais ce que je lisais à ce sujet, selon ce que je lisais à ce sujet, ceux qui sont en train de se noyer, si, même s'ils trouvent quelque chose, même si ce n'est pas quelque chose de solide, même si ce n'est pas quelque chose qui va sauver leur vie à long terme, si on peut dire à long temps ou pour vrai, ils s'attachent fortement à ça, selon ce que je lisais à ce sujet. Et savez-vous quoi? Ils s'attachent à ça comme c'est quelque chose que ça dépend de leur vie de pouvoir continuer à s'y attacher. Et ça prend une foi, ça prend vraiment une confiance pour délaisser cette affaire, pour attacher à quelque chose d'autre. Et savez-vous quoi? Pour les chrétiens qui se trouvaient à Smyrne, qui ont refusé de se flécher le genou devant César, ont refusé de se flécher le genou devant Zeus, eux, ils avaient la vraie chose à laquelle ils s'attachaient. Et c'est précieux de savoir que attaché à Jésus-Christ, c'est notre roc, notre rocher solide. C'est un ancre sûr, comme la Bible nous en parle. Et dans le texte, c'est évident, Jésus-Christ est celui qui connaît et qui sait tout à propos de tous. Le verset 9 nous montre que l'église à Smyrne a réussi le test de la tribulation. Même si les chrétiens fidèles à l'église à Smyrne ont été même s'ils étaient approuvés par la perte de leurs emplois, leurs maisons, leurs terres, etc., la Bible nous dit qu'ils étaient riches spirituellement devant le Seigneur. Et ça, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? D'être riche devant le Seigneur. Souvent, les chrétiens se réunissaient dans les cavernes ou d'autres endroits discrètement, et quelques même se portaient comme volontairement pour agir comme garde, pour dissuader quelqu'un qui s'approchait, ou même pour avertir l'assemblée du danger si quelqu'un s'approchait pour les arrêter. Il y avait même certains juifs qui se disaient croyants, comme on voit ici dans notre texte, qui se disaient croyants, qui essayaient de se joindre à l'église, mais pour vrai, ils n'étaient que seulement là pour pouvoir espionner sur ceux qui étaient à l'église. Je m'excuse. Ce qu'ils voulaient faire pour pouvoir trahir les fidèles au gouvernement. Pour cette raison, le verset 9 appelle ces derniers comme faisant partie de synagogue de Satan. la persécution de l'Église, je m'excuse, a séparé rapidement ceux qui étaient fidèles, ceux qui étaient dévoués, évidemment ceux qui n'étaient pas. Mais Apocalypse chapitre 2, le verset 10, Jésus a donné un défi à l'Église suivi d'une promesse. Savez-vous quoi? C'est seulement cette lettre à l'Église de Smyrne, c'est seulement une des deux des sept lettres. Il n'y a rien de mauvais, rien de négatif écrit à l'Église. L'autre, c'est l'Église de Philadelphie. Et Jésus dit à l'Église de Smyrne de ne pas craindre les épreuves auxquelles ils auraient à faire face. Jésus dit que ces épreuves allaient éprouver leur foi. Est-ce que vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre? Lorsque il disait à Pierre, Satan voudrait te cribler. Ah oui, avec un C, cribler, comme le froment. Mais est-ce que vous rappelez les prochains mots que Jésus a prononcés à Pierre? Oui. Oui, Jésus disait, j'ai prié pour toi, afin que ta foi, je crois que c'est la bonne façon de dire, ne se défaille point.
Est-ce
que
ne, c'est?
Ne défaille point. Ok, c'est pas réflexif, désolé. J'ai prié pour toi. Je me demande ici, et je crois que je connais la réponse, parce que la Bible nous dit que Jésus se tient à côté du Père pour intercéder pour nous. Je me demande si pour les chrétiens à Smyrne, pour nous aussi, lorsqu'on fait face à des épreuves, si Jésus est là pour prier pour eux, dans un tel moment, comme il priait pour Pierre, que sa foi ne défaille point, que Jésus prie que leur épreuve de foi sera pour eux une courte période de temps, mais que leur foi ne défaille point. Donc, il leur donne ce défi de rester fidèles jusqu'à la mort, et la couronne, la récompense sera la vie éternelle avec Jésus au ciel. La Bible parle ici d'une tribulation de 10 jours. Les 10 jours dont Jésus parle, ça fait référence en fait à 10 périodes de persécution sous les empereurs romains, dont cette période... Mais après la période des apôtres, on avait Nero entre 54 et 68 après Jésus, Domitien, Trajan, Marcus Aurelius, c'était son nom, entre 161 et 180, une autre terreur à l'Église. Septimius Severus, c'est tous les noms, n'est-ce pas? Maximinus Decius, Valérien, Aurélien et Dioclétien entre 284 et 305. Ces 10 périodes d'épreuves que les chrétiens ont dû subir, ont vécu, c'était vraiment des épreuves de leur foi. Mais Jésus les encourage de rester fidèles. Et il donne une promesse également pour ceux qui sont attentifs. Pour ceux qui sont attentifs. Combien d'entre vous, juste par curiosité, est-ce que vous avez déjà pris un test, un examen? Et est-ce que le professeur disait, soyez attentifs? Est-ce que vous avez entendu ça? Soyez attentifs lorsque vous lisez les questions. Et lisez toute la question. Est-ce que vous avez entendu ça auparavant? Oh, avant? Dans le passé? Auparavant, merci. C'est intéressant, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est exactement vrai. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Ça aurait été cool, mais je n'ai jamais vécu ça. Mais j'ai entendu une histoire de quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être Nathaniel, tu vas rêver de ça dans ton école bientôt. Et peut-être Camille aussi à l'université. Mais à un moment donné, il y avait un test. Et le professeur disait, avant de commencer le test, lire toutes les questions jusqu'à la fin. Lire prudemment. Et savez-vous quoi ça a commencé? une place pour mettre le nom, la date, etc., etc. Et savez-vous quoi? En bas de la page, ça disait, pas nécessaire de faire ce test, juste le déposer sur le bureau de professeur. C'était un test de l'écoute, n'est-ce pas? D'attention, de faire attention. Et ici, Jésus disait aux croyants ici qui passaient par des grandes épreuves, il leur donne une promesse pour ceux qui sont attentifs. Et ce dernier verset, le verset 11 de ce texte, cette lettre à l'église de Smyrne, c'est essentiellement une promesse à chaque croyant, à chaque chrétien, parce que ceux qui ont placé leur foi en Christ ne vont pas subir les dommages de la deuxième mort spirituellement de notre âme, la deuxième mort éternelle. Au moins qu'on part dans l'enlèvement, on fera face à la mort physique. Mais les croyants à Smyrne faisaient face à la mort physique par la persécution, mais ils avaient une promesse donnée pour eux et pour chaque chrétien, parce que tous ceux qui sont sauvés ne subissent pas les dommages de la deuxième mort, mais seront par contre vainqueurs sur la deuxième mort, seront élevés à l'incorruptibilité en Jésus-Christ. On revient à Smyrne. En 2021, on débarque de notre bateau. Et on dit « Bienvenue à la ville de Izmir. » Dans le passé, c'était appelé Smyrne. Et peut-être notre guide, lorsqu'il nous donne un tour guidé de la ville de Izmir, peut-être notre guide de notre tour guidé, peut-être il dirait « Est-ce que vous connaissez les lettres aux églises dans l'Apocalypse? » Saviez-vous, évidemment, il y a des lettres où Jésus parlait du fait qu'il allait enlever leur chandelier. Merci. Et savez-vous quoi? Il y a certaines des autres villes qui étaient représentées ici dans l'Apocalypse où présentement, il n'y a aucun témoignage pour le Seigneur dans ces villes. C'est dommage. C'est dommage. Peut-être leur compromis, leur apathie. Les résultats de cela, Jésus leur avait ôté leur chandelier. Selon ma recherche, évidemment, je sais que la ville de Izmir est présentement une grande, grande ville de plus que 4 millions de personnes, de résidents. Mais selon ma recherche, présentement, à la ville de Izmir, il y a 12 églises où l'Évangile est prêché à Izmir de nos jours. Et il y a entre 500 et 600 chrétiens qui vivent là-bas, et qui sont fidèles au Seigneur dans un endroit qui est très difficile. Mais quelle bénédiction d'avoir dans la parole de Dieu devant nous cette lettre de promesse, même à ceux qui font face à des grandes, grandes épreuves de leur foi. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Donc souvent on fait ça comme une question. Est-ce que ça va arriver? Non, la Bible nous dit qu'on va vivre ça. D'une façon ou d'une autre, peut-être souvent il y a des endroits que c'est peut-être plus fort que d'autres. Mais ce n'est pas une question si on va le vivre. Moi je suis content qu'on a un sauveur, notre bon berger qui intercède, qui prie pour nous afin que notre foi ne défaille point. Souvent, lorsqu'on considère de telles choses, on se demande si on aurait ce qu'il faut pour faire face à de telles choses, si on est obligé. Combien d'entre vous, est-ce que vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, ses parents avaient caché des Juifs en Hollande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et Corrie ten Boom, dans son témoignage, disait lorsqu'elle était jeune, elle lisait au sujet des chrétiens qui étaient persécutés. Elle avait partagé cette affaire dans une église, dans un pays en Afrique, qui, peu de temps après, il y avait un nouveau gouvernement qui prenait le contrôle et qui commençait à chasser en prisonnier et à torturer des chrétiens. Corrie ten Boom l'a raconté une histoire de sa jeunesse. Corrie disait, lors de sa jeunesse, à un moment donné, elle disait à son père, lors de sa jeunesse, qu'elle ne pensait pas qu'elle aurait assez de courage pour se tenir ferme en face de la persécution, pour se tenir ferme pour le Seigneur. Son père lui demandait, « Corrie, quand on prend le train à Amsterdam, quand est-ce que papa te donne ton billet de train? » Elle réfléchit un instant. Elle a répondu, « Mais papa, juste avant d'embarquer à bord le train. » Et son père disait, « Corrie, c'est pareil avec Dieu. » Dieu nous donnera ce dont nous aurons besoin, comme la force et le courage, exactement le bon moment.
Amen.
Quelle joie de savoir que notre Sauveur nous accompagne et qu'on peut faire face à toute épreuve, soit petite ou soit grande, avec lui. Et qu'en Jésus-Christ, on est victorieux. La vie éternelle nous attend. Quelle victoire, quelle récompense, quel repos céleste. Merci Seigneur de ta parole. Merci Seigneur de la victoire qu'on a en toi, Seigneur. Toi, tu es victorieux. Oh Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur. Je ne sais pas, Seigneur, ce qui nous attend d'ici, soit l'enlèvement ou d'ici notre mort, notre décès. Mais Seigneur, que tu puisses nous aider à se tenir ferme pour toi. Seigneur, à ne pas faire des compromis, à ne pas fléchir le genou à autre maître, à autre Seigneur qu'à toi seul. Et Seigneur, merci de cette promesse, merci de cette consolation que tu intercèdes, tu pries pour nous. Notre foi ne défaille point non plus. Seigneur, je te demande que tu puisses, Seigneur, nous encourager, nous guider, Seigneur, nous fortifier. Aide-nous, Seigneur, Seigneur, de ne pas se dépendre sur notre chair, de ne pas se dépendre sur notre force humaine, Seigneur, qui va toujours nous faire trébucher, qui va toujours nous laisser tomber. Mais Seigneur, aide-nous, Seigneur, de dépendre de ta force. De ton courage, Seigneur. Seigneur, que tu puisses être glorifié parmi nous et en nous. Et Seigneur, afin qu'on ne doive pas avoir de honte lorsqu'on se tient devant toi. Notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.